Docteur Jean-Charles Lambert, de bien vouloir me rejoindre. Vous allez nous parler, d'abord je vais préciser que vous êtes directeur de recherche INSERM à Lille. Vous travaillez sur la génétique de la maladie d'Alzheimer. Quelles sont les perspectives de prise en charge aujourd'hui grâce à ce qu'on sait de la génétique et de la prévention ?
Très bien, merci beaucoup. Donc bonjour à toutes et à tous. Alors, je suis désolé, hein, si vous étiez là l'année dernière, ce sera un peu la même chose, puisque la recherche est dans le temps long, donc on ne révolutionne pas toutes les années cette thématique. Alors, l'année dernière, il y avait eu une grosse panne de projecteurs, donc là, vous aurez par contre les diapositives, donc ça, ce sera quand même déjà beaucoup mieux. Voilà, alors, évidemment. Alors, quelques chiffres, parce que c'est toujours important de remettre dans le contexte de la maladie d'Alzheimer, évidemment. Donc à gauche, vous avez une distribution, À gauche, vous avez une distribution de la carte européenne avec la couleur la plus foncée représentant le nombre de cas le plus important dans chacun des pays. Alors vous voyez, il y a quatre pays qui sont vraiment foncés, qui ont plus d'un million de patients, qui sont l'Angleterre, alors le Royaume-Uni, excusez-moi, l'Allemagne, la France et l'Italie. Bon, alors ça s'explique aussi parce que ce sont les quatre pays les plus peuplés hein, d'Europe. Mais évidemment, c'est surtout pour vous dire que ça concerne déjà beaucoup de monde avec un diagnostic de maladie d'Alzheimer à travers l'Europe. Et c'est donc un enjeu de santé publique d'ores et déjà. Alors en particulier parce que le nombre de cas qu'on dit prévalent, c'est-à-dire qu'on mesure à un moment donné, par exemple à 65 ans, à 70 ans, à 75 ans, augmente au fur et à mesure, tout simplement parce que le facteur de risque principal pour la maladie d'Alzheimer est l'âge. Donc plus on vieillit, plus notre risque de développer la maladie d'Alzheimer augmente. Alors, comme vous voyez, c'est très clair, à 75 ans, vous avez à peu près 4-5% de la population générale qui peut être atteinte, et au-delà de 90 ans, vous pouvez monter à plus de 30%, 40%, voire 50%, parce qu'une des grosses caractéristiques de la maladie d'Alzheimer, c'est que vous avez deux femmes pour un homme atteint. Alors, initialement, ce résultat peut s'expliquer essentiellement parce que l'espérance de vie est plus importante chez les femmes, hein, si vous ne le saviez pas, mesdames, vous nous mettez 6 ans d'espérance de vie quand même dans les dents, puisque c'est quand même une grosse différence, et donc on peut comprendre cette différence de 2/3, 1/3 à cause de ça. A priori, ce n'est pas la seule explication, qu'on n'est pas exactement encore quels sont les critères qui influencent cette différence, mais il semblerait néanmoins qu'il y ait quand même des facteurs qui soient propres aux femmes, qui peuvent conduire à une augmentation du risque de développer la maladie. Et c'est un des axes très importants de recherche actuellement, même si nous n'avons pas encore de preuves concrètes. Par exemple, le nombre d'enfants, le temps entre les premières règles et la ménopause sont des pistes qui sont actuellement en train d'être creusées pour déterminer pourquoi on pourrait avoir une telle différence, essentiellement associée évidemment à l'exposition à des hormones. Alors quand on regarde ces chiffres-là, évidemment, on comprend que si l'espérance de vie continue à augmenter, le nombre de cas va continuer à augmenter. C'est le cas. Et donc en France, on va probablement avoir en 2050 2,2 millions de personnes atteintes de maladie d'Alzheimer. Ce qui représente une augmentation importante puisqu'on estime actuellement qu'on est plutôt à 1,2 million de personnes atteintes. Mais comme vous voyez, au niveau du monde, on sera plutôt à 120 millions de personnes atteintes. Pourquoi ? Parce qu'en fait, excusez-moi du terme, le réservoir de personnes qui vont développer la maladie d'Alzheimer se trouve en fait dans les pays en voie de développement, puisque c'est dans ces pays qu'on va connaître la plus grande augmentation d'espérance de vie. Donc évidemment, les pays développés vont connaître une augmentation de nombre de cas, mais l'augmentation principale aura lieu dans les pays développés en raison de l'amélioration des conditions de vie et donc de l'augmentation de l'espérance de vie dans ces pays. Donc c'est vraiment un problème mondial, évidemment. Alors, ce qui se passe dans un cerveau de personnes atteintes de maladie d'Alzheimer, vous avez à gauche un cerveau normal et à droite un cerveau d'un patient atteint de la pathologie. Donc, ce que vous voyez tout de suite, c'est évidemment ces grosses circonvolutions qui sont bien creusées et qui sont très caractéristiques de la pathologie, qui sont en fait un marqueur de l'atrophie cérébrale. En fait, ce qui se passe, c'est la mort des neurones et donc cette perte de masse est en fait un indicateur de la perte des neurones. Alors là, évidemment, c'est une personne qui est décédée, qui a été développée d'une maladie déjà très avancée, puisque vous avez tout le cerveau qui est marqué par cette perte neuronale. Mais en réalité, quand on parle des premiers symptômes, en réalité, vous avez une région principale qu'on appelle l'hippocampe. Alors, je fais toujours la même représentation, mais ça ne va pas vous aider, c'est par ici. Et vous avez des deux côtés, hein, donc vous pouvez faire ça aussi, là, comme ça. C'est une petite structure, et en fait, quand vous avez les premiers signes cliniques de la maladie d'Alzheimer, en fait, cet hippocampe est déjà très atteint, puisqu'on estime qu'à peu près 30 à 40%, voire 50% des neurones de cette région spécifique sont déjà morts. Cette région est essentielle pour tout ce qui est encodage de la mémoire et pour maintien de la mémoire. Donc vous voyez évidemment le lien évident avec les premiers symptômes cliniques de la pathologie. Alors, je montre toujours cette photo aussi, cette diapositive aussi, parce que tout simplement, il faut écarter la notion de démence qu'on entend parfois dans le cadre de la maladie d'Alzheimer, et ne surtout pas projeter le terme de démence dans une notion, on va dire, de mot grand public. D'accord ? La maladie d'Alzheimer, c'est une maladie biologique qui est caractérisée par un processus pathophysiologique qui commence à être bien caractérisé. Ce n'est pas une démence au sens psychiatrique ou pour des raisons autres que celles biologiques. Je pense que c'est un point essentiel à garder en tête. C'est une maladie avant tout biologique. Alors elle est caractérisée par deux marqueurs caractéristiques, la dégénérescence neurofibrillaire et les dépôts amyloïdes. Alors ça, c'est ce qu'on observe dans le cerveau et qui va permettre au final de dire qu'il y a une maladie d'Alzheimer. Un diagnostic de maladie d'Alzheimer n'est posé qu'après décès du patient et examen anatomopathologique. Avant, on parlera de diagnostic possible ou probable, excusez-moi. Et en fait, parce que c'est un diagnostic différentiel, on doit exclure d'autres causes avant de dire que c'est une maladie d'Alzheimer. Alors ça, c'est important parce que la maladie d'Alzheimer représente à peu près 60 à 70% de toutes les maladies neurodégénératives. Donc il y a une erreur de diagnostic potentiel quand on pose un diagnostic de maladie d'Alzheimer, même quand on dit probable, hein, probable ça ne veut pas dire sûr. Et donc ça peut avoir des implications aussi au niveau de la prise en charge thérapeutique. Alors tout ça est en train de changer, et je pense que Rémi en parlera un petit peu, avec le développement actuel de biomarqueurs plasmatiques qui sont en train de complètement changer la définition du diagnostic de maladie d'Alzheimer. Et probablement dans 5-10 ans, et là, c'est là, vraiment la recherche avance à une vitesse incroyable. Dans 5-10 ans, on posera probablement le diagnostic de maladie d'Alzheimer essentiellement avec un examen biologique, par une prise de sang. Ce n'est pas encore pour tout de suite, mais ça va très 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 vite. Alors quand on regarde les dépôts amyloïdes, qui est quand même le marqueur principal hein, de la maladie d'Alzheimer, alors excusez-moi pour les jargons un peu abrupts comme ça, c'est des dépôts extracellulaires, donc pas dans les cellules, dans le parenchyme cérébral. Le parenchyme cérébral, c'est ce qui entoure les cellules. Et c'est une atteinte diffuse du cerveau. Alors je vous montre cette diapositive essentiellement parce que c'est de là, finalement, des dépôts amyloïdes que tout est parti au niveau de notre compréhension de la maladie d'Alzheimer. Pourquoi ? Parce qu'en 1983, et c'est pas si vieux que ça, on a caractérisé le composant principal de ces dépôts amyloïdes. Et comme les chercheurs sont des personnes qui ont beaucoup d'imagination, ils ont appelé ça des peptides amyloïdes. Mais je vous garder bien ça en tête. Et donc ce composé, alors c'est ce qu'on appelle un peptide, donc de 39 à 43 briques, qui caractérise véritablement ce constituant principal des dépôts amyloïdes. Et ça c'est essentiel, mais en 1983 c'est pas très vieux. Hein. Gardez ça aussi en tête, la recherche est le temps long. Le cancer, en réalité, on a vraiment commencé à travailler sur la recherche sur le cancer aux alentours de 1920-1930. Là, la première caractérisation biologique qui a été vraiment pivot dans la recherche de la maladie d'Alzheimer, c'est 1983. Il y a quand même 50 ans de différence de recherche. Donc ça permet aussi de garder en perspective le fait qu'on n'a pas forcément d'outils thérapeutiques actuellement, parce qu'on a commencé beaucoup plus tardivement. C'est normal, la maladie d'Alzheimer, on l'a caractérisée en 1905, et on a compris que c'était vraiment un problème, on va dire, vraiment dans les années 90. Alors ces dépôts amyloïdes, en fait, donc la dégénérescence neurofibrillaire, les dépôts amyloïdes et l'atrophie cérébrale. En gros, en 1983, c'était globalement ce qu'on connaissait au niveau physiologique de la maladie d'Alzheimer, et ben, on ne savait pas trop comment agencer ces différentes lésions. Et en réalité, ben, on était un peu bloqué, puisque si on n'est pas capable d'agencer l'histoire naturelle physiologique de la maladie, ben, qu'est-ce qu'on peut faire, puisqu'on ne sait pas comment attaquer en fait, la problématique au niveau thérapeutique. Et ça a été une grande question. Et en fait, la première réponse a été apportée par la génétique, essentiellement par la caractérisation de certaines formes génétiques. Alors, la génétique, comme vous savez, le génome humain, c'est ce qui nous compose, c'est ce qui code nos caractéristiques principales, que vous ayez les yeux bleus, etc., peu importe. Et en fait, c'est 3 milliards de lettres, qu'on appelle ATGC, qui sont agencées. Donc vous avez 3 milliards de lettres, et en fonction de cet agencement, vous donner un sens biologique à l'information génétique. Très bien, 3 milliards de lettres. En fait, pour un individu X ou un individu Y, pendant ces 3 milliards de lettres, vous pouvez avoir des variations d'un individu par rapport à l'autre. Alors ici, par exemple, j'ai indiqué un grand C par rapport à un grand T, ce qu'on appelle entre guillemets une séquence normale et une séquence mutée. En réalité, dans notre génome de 3 milliards de lettres, globalement, si on devait faire l'inventaire dans la population mondiale, on a à peu près actuellement connu 250 millions de variations génétiques. C'est beaucoup. Ce qui veut dire que, par exemple, dans cette salle, aucun d'entre nous n'est identique au niveau génétique. Alors, nous sommes vraiment, alors sauf s'il y avait des jumeaux, donc là, évidemment, la question serait un peu différente, des vrais jumeaux, mais dans cette salle, personne n'est identique au niveau génétique. Voilà. Donc ça, c'est un point qui est important à arrêter. Par contre, ben, on peut avoir des mutations qui peuvent avoir des impacts. Donc, comme je vous l'ai expliqué, des gens qui ont les yeux bleus, des gens qui sont, comme je dis, aussi chauves, si vous êtes petit, grand, alors la taille est très contrôlée par la génétique, etc. En soi, ce n'est pas très grave. Bon, moi, j'aurais pu faire des implants, voilà, peu importe, mais j'en mourrais pas, voilà. Par contre, malheureusement, ces mutations, parfois, peuvent avoir des conséquences dramatiques. Une mutation sur 3 milliards de bases peuvent conduire à des maladies très graves. Par exemple, la maladie de Huntington, l'hémophilie, ce type de pathologie, la plupart des maladies neurodéveloppementales chez l'enfant. Dans le cas de la maladie d'Alzheimer, il y a exactement ça, où parfois vous avez une mutation qui va malheureusement conduire au développement de la maladie. Donc si vous êtes porteur de la mutation, vous développez malheureusement la maladie. C'est ce qu'on appelle des formes monogéniques. Alors ce sont des formes très rares, qui représentent moins de 1% des cas, qui sont des formes précoces, généralement entre 35 et 60 ans. Alors à titre indicatif, le cas le plus jeune de maladie d'Alzheimer diagnostiqué, c'était 19 ans en Chine. Mais donc les cas précoces, très précoces, existent pour la maladie d'Alzheimer. Et vous avez donc cet arbre familial où en fait vous avez quelqu'un d'atteint à chaque génération et au moins environ 50% de la fratrie. Devant ce type d'arbre génétique, on va donc chercher la présence de ces mutations responsables de ces formes monogéniques. Mais comme la mutation est forcément responsable de la maladie, vous avez forcément un lien de causalité. Et donc caractériser les mutations et ce qu'elles impliquent, va forcément être une indication au niveau du processus pathophysiologique. Et c'est ce qui s'est passé avec la caractérisation des mutations dans un certain nombre de gènes, 3 à ce jour, alors qu'on appelle APP, PS1, PS2, peu importe, mais qui ont surtout été toutes associées à une augmentation de la surproduction, une augmentation de la production ou de l'agrégation des peptides amyloïdes. Vous vous rappelez les peptides amyloïdes? C'est les constituants principaux des dépôts amyloïdes. Et donc ça a conduit à dire que les peptides amyloïdes et donc les dépôts amyloïdes étaient le problème principal du développement de la maladie d'Alzheimer et ce qui a permis de proposer un agencement du PULSE que je vous ai décrit précédemment, c'est-à-dire qu'une accumulation des dépôts amyloïdes conduisait à la dégénérescence neurofibrillaire et donc à la mort neuronale et à l'atrophie cérébrale et donc à l'expression clinique de la maladie. Et donc, en réalité, la génétique a conduit à ce qu'on a appelé l'hypothèse de la cascade amyloïde. Et donc, très simplement, quand on s'est dit ça, si les dépôts amyloïdes et les peptides amyloïdes sont la cause principale du développement de la maladie, l'approche thérapeutique la plus efficace et la plus évidente, c'est de, évidemment, jouer à la première étape, peptides amyloïdes et dépôts amyloïdes. Et toute une approche thérapeutique a été développée pour, justement, soit diminuer la production des dépôts amyloïdes par le cerveau, ou pour finalement enlever les dépôts amyloïdes. Alors, je parlerai de la vaccination un peu plus tard, justement, parce que c'est un des traitements thérapeutiques qui est arrivé suite à cette hypothèse. Alors, cependant, il faut garder quelque chose de très important en tête. Je vous ai dit, cette hypothèse de la cascade amyloïde, elle a été développée à partir de formes rares de la maladie, moins de 1% des cas. OK. Cependant, 75% des cas de maladie d'Alzheimer ont plus de 80 ans. Or, les moins de 1% des cas, c'est des formes précoces, entre 35 et 60 ans. Et la grande majorité des cas, donc, n'ont pas de mutation sur le gène APPP1 et PS2, et sont beaucoup plus âgés. Donc, finalement, est-ce que l'hypothèse de la cascade d'amyloïde fonctionne pour les formes rares, mais est-ce qu'on peut l'extrapoler pour toutes les autres formes de maladie d'Alzheimer? Et ça, c'est un enjeu qui est majeur, tout simplement parce que si on développe des approches thérapeutiques par rapport à une hypothèse, il faut espérer que cette hypothèse fonctionne pour la grande majorité des cas. Et ça a été un grand questionnement de la recherche sur la maladie d'Alzheimer depuis 30 ans. Et on n'y a pas encore complètement répondu. Et ça, c'est quelque chose qui est important à garder en tête. Bon, évidemment, il y a des signaux quand même qui indiquent qu'on ne s'est pas complètement trompé. Alors, ces 99 autres % de maladies d'Alzheimer, donc au-delà de ces formes purement génétiques, en fait, c'est ce qu'on appelle la maladie d'Alzheimer, c'est une maladie multifactorielle complexe qui dépend de l'interaction des facteurs génétiques et environnementaux. La question, quand on travaille de maladies multifactorielles complexes, c'est de savoir où on pose le curseur. Est-ce que c'est plutôt une maladie génétique ou plutôt une maladie environnementale? Alors, les maladies environnementales, c'est par exemple le fait de fumer. Si vous ne fumez pas, vous diminuez quand même très, 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 très fortement le risque de développer un cancer du poumon. C'est toujours possible, mais c'est de l'ordre de 20 fois moins. D'accord? Donc ça, c'est plutôt une maladie environnementale. Maladie génétique, c'est une maladie monogénique, ce que je vous ai expliqué pour le cas de la maladie d'Alzheimer. Là, c'est purement génétique. Alors, la maladie d'Alzheimer, en fait, on est ici, ce sont les formes sporadiques. On a quand même une composante génétique importante qui explique 60 à 80% du risque. Mais ce sont des probabilités. Ce qui veut dire que ce n'est pas parce que vous avez eu quelqu'un de malade dans votre famille que vous développerez forcément une maladie à cause de considérations génétiques. Tout simplement parce qu'on parle de redistribution du génome au fur des générations, et aussi parce que ben, quand je dis 60 à 80% de facteurs génétiques, ça veut dire aussi 20 à 40% de facteurs environnementaux. Et la génétique et l'environnement se parlent. Donc, vous voyez, donc c'est très complexe. Donc quelqu'un de malade dans une famille ne veut pas dire que les enfants et petits-enfants seront malades eux-mêmes. C'est une probabilité, une combinatoire de différents facteurs qui vont changer de toute façon d'une génération à l'autre. Et vous allez voir pourquoi. Alors c'est petit, je suis désolé. Et là, c'est justement ces 20 à 40% de facteurs environnementaux. En fait, on a maintenant commencé à caractériser ce qui pouvait être de la prévention dans le cadre de l'Alzheimer depuis maintenant 2 ans. Et on a estimé qu'en milieu de vie, la perte d'audition, l'hypertension artérielle et l'obésité sont des facteurs qu'on peut prévenir et qui peuvent conduire à diminuer le risque de développer la maladie d'Alzheimer. On est plutôt à entre 30 et 50 ans. Entre 60 et 70 ans, il faudrait plutôt modifier le fait de fumer, la dépression, l'activité physique. Bon, ça c'est vrai, l'activité physique c'est bien tout le temps, hein, soyons très clairs. Voilà. Alors pas que pour la maladie d'Alzheimer, en général, ça marche pour le cancer, ça marche pour les maladies cardiovasculaires, ça marche très très bien pour la maladie d'Alzheimer, ça marche pour toutes les maladies humaines, donc faites du sport, de toute façon. Pas seulement en fin de vie, et quand je parle de sport, hein, c'est pas non plus haut niveau, hein, c'est juste avoir une activité 2 ou 3 fois par semaine, et c'est déjà suffisante. D'ailleurs, faire trop de sport, ça peut être un peu l'inverse d'ailleurs. Donc, l'isolation sociale, on peut jouer sur l'isolation sociale, et c'est un facteur important, particulièrement chez la personne âgée, et le diabète. Donc tout ça, ce sont des facteurs modifiables qui peuvent être pris en compte au niveau prévention. Alors, c'est d'autant plus vrai qu'on a maintenant un certain recul par rapport à certains facteurs de prévention qui sont les maladies cardiovasculaires. Les maladies cardiovasculaires, vous savez peut-être, on a connu depuis les années 80 une diminution du risque de mortalité des infarctus du myocarde et autres maladies cardiovasculaires parce qu'on a très fortement amélioré la prise en charge clinique et thérapeutique. Et donc, on a diminué la mortalité et le risque de développer ce type de pathologie. Très bien. Et dans les années 2007, 2008, 2010, on s'est rendu compte que le nombre incident de maladie d'Alzheimer, alors l'incident c'est le nombre de nouveaux cas par an, c'est pas le nombre de cas à un moment donné dans une population, c'est le nombre de nouveaux cas. Et on s'est rendu compte qu'à partir des années 2006-2007, le nombre de nouveaux cas par an de maladie d'Alzheimer diminuait. Alors, on a été surpris parce que c'est pas vraiment à ce à quoi on s'attendait, puisque je vous ai dit qu'avec l'espérance de vie, on s'attend même à une incidence qui augmente. Et on s'est retrouvé avec une contradiction. Et en fait, on a compris que probablement cette diminution d'incidence de maladie d'Alzheimer venait d'une meilleure prise en charge des facteurs de risque de maladie cardiovasculaire. Alors ça illustre qu'on peut prévenir la maladie d'Alzheimer dans un premier temps, et ça illustre aussi un deuxième point, c'est que les décisions de prise en charge thérapeutique, mais aussi les politiques de santé publique, ont un impact de toute façon sur l'évolution d'une maladie et de l'évolution de la maladie. C'est-à-dire que rien n'est gratuit, rien n'est neutre, et qu'il faut toujours garder ça en tête. Alors c'est important parce que là je vous parle de quelque chose de positif, mais il y a aussi des facteurs négatifs qu'il va falloir prendre en compte dans les prises de décision en santé publique. L'augmentation de l'épidémie en obésité. Vous savez, l'obésité augmente de plus en plus dans nos populations développées et aussi dans les populations en voie de développement. Alors, c'est des vrais problèmes déjà aux États-Unis, au Mexique, etc. Je vous ai dit que l'obésité était un facteur de risque de maladie d'Alzheimer. Donc, qu'est-ce qui va se passer? On ne sait pas. La pollution. Un certain nombre de facteurs indiquent aussi que les facteurs de pollution, alors on ne sait pas encore quel type, peuvent influencer sur le risque de développer la maladie d'Alzheimer. Et là, je vais passer sur un sujet qui est un peu polémique, qui peut vous faire peur, mais qui est une réalité. Le Covid. En fait, le Covid a plusieurs voies d'entrée au niveau du tissu cérébral, soit au niveau nasal, c'est pour ça qu'à un moment donné, les gens perdaient l'odorat. Il peut rentrer aussi par les yeux, puisqu'en fait, vous avez les yeux, puis derrière, vous avez pratiquement le cerveau, mais aussi par le système vasculaire, tout simplement parce que le Covid est une maladie systémique du système vasculaire. Or, un certain nombre d'indications indiquent que le Covid ne fait vraiment pas du bien au cerveau. Maintenant, on commence à avoir des données épidémiologiques, en tout cas, qui montrent qu'une infection au Covid peut précipiter une entrée en maladie d'Alzheimer. Donc, c'est des personnes qui étaient déjà fragiles, mais le Covid va précipiter le développement de la pathologie. Ça ne veut pas dire que c'en est la cause, attention, mais va précipiter. Et maintenant, on est un petit peu inquiet de savoir si, par hasard, l'infection Covid ne pourrait pas favoriser, en général, le développement des maladies neurodégénératives. Alors, c'est quelque chose qui n'est pas forcément surprenant, parce qu'on sait déjà qu'un certain nombre de virus peuvent entraîner une augmentation du risque de développer la maladie d'Alzheimer. Donc, conclusion, évitez de faire trop de Covid. Et donc, pour éviter de trop faire de Covid, vaccinez-vous, parce que ça diminue aussi la gravité du Covid. Voilà. Donc ça, c'était un message plus large. De toute façon, vaccinez-vous en général de toute manière. Alors, les facteurs de risque non modifiables, les antécédents familiaux, donc la génétique. Au-delà de ces formes précoces, on a donc une probabilité, c'est-à-dire qu'en fonction des combinatoires génétiques, vous avez un risque qui va évoluer au fil des générations, et c'est très difficile à évaluer. Et pour évaluer ça, il est nécessaire de connaître la composante génétique de la maladie d'Alzheimer. Actuellement, le facteur de risque génétique le plus connu de la maladie d'Alzheimer, c'est le gène de l'apolipoprotéine E. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais sachez que si vous avez une combinaison particulière génétique pour ce gène, vous pouvez avoir une augmentation de près de 15 fois du risque de développer la maladie. C'est 2% de la population générale. Vous avez eu quelqu'un qui a récemment été, pas diagnostiqué, mais à qui on a dit qu'il était porteur du génotype Y4Y4, c'est Chris Hemsworth, donc Thor dans Marvel, si jamais voilà, à qui on l'a informé qu'il avait donc ce génotype particulier, il l'a pris comme il l'a pris, voilà, mais c'est encore une fois, même si on a une augmentation du risque de 15 fois, ça ne veut pas dire qu'on développe forcément la maladie. D'accord ? C'est un point aussi important. Et d'autant plus qu'actuellement, on n'a pas forcément grand-chose à proposer. Donc, est-ce que c'est intéressant d'être dépisté pour ce type d'information génétique ? En l'état, comme c'est une augmentation de risque, je ne suis pas sûr que ce soit pertinent, à part potentiellement se stresser inutilement. On peut toujours orienter sa vie en fonction d'une certaine forme de prévention, évidemment. Mais encore une fois, c'est des diminutions, des augmentations de risque. Ce n'est pas parce que vous allez avoir la vie la plus saine au monde que vous éviterez de développer une maladie d'Alzheimer, quel que soit votre patrimoine génétique de toute façon. Alors en 2019, on connaissait presque 30 gènes qui caractérisent impliqués dans la maladie d'Alzheimer, cependant, et 50% n'étaient pas encore connus. Alors, on a la chance, je coordonne un projet européen, puisque l'idée aussi c'est de vous parler un petit peu de science à ce niveau-là, qui regroupe 18 pays européens, plus de 80 laboratoires qui nous ont permis d'analyser 110 000 malades et 677 témoins. On a comparé le génome de ces malades à ces témoins pour comprendre quelle était la composante génétique de la maladie d'Alzheimer. Ça donne ce genre de choses, c'est des jolis graphes, c'est juste pour vous montrer qu'un petit peu. Ce qui est important, c'est qu'on a validé 33 déterminants génétiques, on en a caractérisé 42 nouveaux. C'est juste pour vous dire qu'à ce niveau-là, la génétique, la recherche en général, et la recherche en génétique sur la maladie d'Alzheimer en particulier, avance très rapidement, pour des raisons techniques, mais tout simplement aussi parce que les chercheurs travaillent de plus en plus ensemble, parce que, alors là en l'occurrence, plus on est groupé, plus on est fort. Et ce n'est pas une allégorie des élections qui arrivent. Alors, qu'est-ce que nous a appris cette génétique? Alors, cette génétique nous a appris que la production de peptides amyloïdes, même pour les formes sporadiques de la maladie d'Alzheimer, c'est important. Et ça, c'est rassurant, ça veut dire qu'une partie des thérapies actuellement développées vont probablement agir dans ces formes sporadiques. Ça, c'est un bon point. Et donc, pourtant, jusqu'à présent, tous les essais thérapeutiques étaient des échecs par rapport à l'hypothèse de la cascade amyloïde, jusqu'à très récemment, où les premiers essais thérapeutiques positifs ont été publiés en 2022, à partir de l'immunothérapie. L'idée, c'est de dire notre système immunitaire peut combattre toute forme d'agression et pourquoi pas les dépôts amyloïdes. Donc forçons notre système immunitaire à se débarrasser des dépôts amyloïdes. C'était l'idée en 2000, et c'est le premier test qu'on a fait en 2000, où en fait on vaccinait avec des peptides amyloïdes. C'est ce qu'on appelle l'immunisation active, directement avec les peptides amyloïdes. Ça marche très bien chez la souris. Chez l'humain, on a très rapidement voulu faire un essai thérapeutique, et on l'a arrêté très rapidement, parce que malheureusement, il y avait des effets secondaires massifs en termes de saignement au niveau cérébral. Et ça a provoqué des morts. Donc on a dit, stop, on ne contrôle pas tout à fait ce qui se passe, l'idée est bonne, mais c'est trop risqué. D'où l'intérêt des essais thérapeutiques. On s'est dit, plutôt faire de l'immunisation active, on va faire de l'immunisation passive. Plutôt que d'injecter des peptides amyloïdes, on va injecter des anticorps qu'on a fabriqués exprès contre les peptides amyloïdes. Et ça, ça a permis de fortement limiter les effets secondaires. Et donc, on a fait des essais thérapeutiques. Et ce qui s'est passé, c'est que ça marche. Alors, en tout cas, au niveau des dépôts amyloïdes, ça nettoie très bien les dépôts amyloïdes. Bon, c'est bien. C'est bien de nettoyer les dépôts amyloïdes, mais est-ce que ça améliore la santé du patient? Parce que c'est ça le plus important. Alors là, je vais mettre des bémols, si vous en avez entendu parler. Les résultats sont positifs, c'est-à-dire qu'ils sont significativement positifs. On voit une différence entre le groupe traité et le groupe non traité. Cependant, quand on le positionne sur une échelle d'effet clinique, en réalité, l'effet est minime. Ce n'est pas ça qui va bouleverser la vie des patients. Par contre, c'est une preuve que l'approche fonctionne et que donc on va continuer à travailler pour améliorer la prise en charge thérapeutique. Alors d'autant plus qu'il est très peu probable que tout le monde va réagir de la même manière en fonction de ce traitement thérapeutique et qu'il y a des gens qui répondront très bien et d'autres personnes qui répondront beaucoup moins bien. Alors c'est important parce qu'on ne va pas non plus donner ce genre de traitement à tout le monde parce qu'il y a quand même des effets secondaires qui sont importants, toujours pour des problématiques de saignement, même si c'est beaucoup moins grave que ce qu'on avait observé avec l'immunisation active. Alors, la génétique a aussi montré l'importance de ce qu'on appelle des cellules microgliales, qui sont considérées comme les éboueurs du cerveau. Éboueurs, dépôts amyloïdes, vous voyez un petit peu le lien, on a des déchets, les éboueurs vont récupérer les déchets, etc. On sait maintenant que pour la maladie d'Alzheimer, il y a un dysfonctionnement de ce qu'on appelle les cellules microgliales, donc de ces éboueurs, et l'idée c'est d'essayer de compenser cette monofonction, de ces grèves, de ces éboueurs, excusez-moi, voilà, pour éviter que les dépôts amyloïdes finalement s'amoncellent dans le cerveau. Donc il y a vraiment de grosses approches thérapeutiques qui sont en train de développer à ce niveau-là et qui sont assez prometteuses. De toute manière, ceci confirme que l'hypothèse de la maladie d'Alzheimer pourrait fonctionner, mais que c'est une seule approche thérapeutique contre la maladie d'Alzheimer, ça ne marchera pas, ça c'est clair. Il faut une polythérapie pour prendre en charge la maladie d'Alzheimer, et c'est vraiment l'objectif actuellement de la recherche, parce que très clairement, chaque individu répondra de façon différente en fonction des traitements proposés, pour des raisons environnementales, mais aussi génétiques, parce que la génétique est vraiment importante et va probablement conditionner la réponse au traitement développé. Et c'est là où on va se déplacer petit à petit vers ce qu'on appelle la médecine personnalisée, dont vous avez déjà entendu parler, et qui va probablement être impliquée dans la maladie d'Alzheimer quand on aura plusieurs traitements. Mais on y travaille et franchement, on avance vite. Alors là, pour dire la médecine personnalisée, vous le connaissez déjà, dans le cadre du cancer, alors pas du cancer, des cancers, où maintenant on est capable de définir le traitement le plus adapté en fonction de la tumeur développée. Et ça, ça a un impact très important sur la rémission et sur les capacités de survie à plus de 5 ans. Et ce sera l'objectif de la maladie d'Alzheimer et ce sera l'objectif de pratiquement toutes les maladies humaines. Voilà, je vous remercie.
Merci beaucoup, docteur Jean-Charles Lambert. Eh bien, le moment des échanges est arrivé, donc n'hésitez pas à poser vos questions et je vous rappelle que ceux qui préfèrent les poser par écrit peuvent le faire aussi. Donc, est-ce qu'il y a des questions? Alors, en attendant qu'une main se lève, j'ai l'impression, en vous écoutant parler, surtout vers la fin de votre intervention, qu'on se retrouve un peu dans la situation où on était avec le cancer il y a quelques années, quelques dizaines d'années même, et on s'apercevait qu'effectivement, il n'y aurait pas un médicament contre le cancer, mais différentes voies d'approche et des combinaisons de médicaments. Il faut encore combien de temps pour arriver à stopper la maladie comme on le fait aujourd'hui avec le cancer en attaquant différentes cibles?
Alors, on n'en est pas encore comme au cancer pour plusieurs raisons. Les premiers traitements thérapeutiques vraiment efficaces pour le cancer, ça a été les années 70. On n'en est pas encore là, on est vraiment sur la première fois où on a un essai thérapeutique qui donne un signal. Et ça, c'est déjà très bien parce que ça veut dire que, en termes de recherche, on était sur une bonne voie. Et c'est important. Parce que si vous faites un travail pendant 20 ans et que vous vous rendez compte que vous êtes parti dans la mauvaise direction, c'est 20 ans perdus pour tout le monde. Et là, ce n'est pas le cas. Donc c'est déjà un signal qui est important. Ça veut dire qu'on doit continuer sur cette voie, mais pas seulement. Ensuite, il y a d'autres niveaux de complexité qu'on a à prendre dans le cadre de la maladie d'Alzheimer que un certain nombre de cancers n'avaient pas. C'est tout simplement le fait qu'on travaille sur un organe, le cerveau, qui est difficilement accessible. Je suis sûr qu'on ne vous a jamais proposé de faire une biopsie de cerveau. C'est quand même assez rare. Il y a quand même des très bonnes explications pour ça. Et ça limite énormément en termes de recherche, parce que finalement, le cerveau est pratiquement accessible seulement après le décès du patient ou de la personne. Et donc, ça pose des vrais problèmes. Ensuite, on parle du cerveau, qui est un organe qu'on commence qu'à peine, alors exactement pour ce que j'ai expliqué avant, hein, qu'on commence à comprendre, qu'on connaissait assez peu, qu'on commence maintenant à mieux comprendre. Mais c'est compliqué de soigner une pathologie d'un organe qu'on ne connaît pas ou très peu. Et donc, on est obligé de mener les deux en même temps. Voyez. Et donc, forcément, quand vous menez les deux en même temps, ça va moins vite que si vous aviez qu'une seule ligne de travail à effectuer. Donc, c'est vraiment une difficulté, ce qui explique aussi pourquoi la recherche sur la maladie d'Alzheimer peut donner l'impression d'aller lentement. Et je le conçois très bien, hein, quand on a quelqu'un de malade dans sa famille, on a toujours envie que ça aille vite. Déjà parce que la recherche est un temps long. Quand on propose un médicament, il faut que ça prenne du temps. Je vous ai cité l'exemple de 2000 avec l'essai thérapeutique qui avait été arrêté à cause des effets secondaires trop graves. Ben c'est parce qu'on n'avait pas assez pris de temps, très clairement. Donc il faut comprendre la maladie. Et donc, comprendre la maladie avec les limitations que je vous ai expliquées, c'est compliqué. Mais franchement, c'est ça aussi, je ne suis pas très objectif puisque c'est mon métier et puis que heureusement que je suis motivé et optimiste par rapport à la recherche, parce que si moi-même je ne l'étais pas, ce serait quand même malheureux. Mais de façon très objective, ça progresse maintenant de plus en plus vite. On commence vraiment à mieux cerner ce qu'est la maladie de l'Alzheimer et à proposer vraiment des prises en charge efficaces. Je vous ai parlé des traitements, des diagnostics précoces qui sont là en train de vraiment être révolutionnés. Et probablement que la thérapie suivra. Alors évidemment, il va y avoir un décalage, qui est une question importante, entre le diagnostic précoce et le fait qu'on n'aura pas de prise en charge thérapeutique. À quoi ça sert de diagnostiquer de façon précoce une maladie si on n'a rien à proposer à côté? Ça, c'est des questions de fond. Après, comme je vous l'ai dit, hein, il y a de la prévention et il y a de la prise en charge. Je suis sûr que les cliniciens vont le dire. Il y a quand même une prise en charge clinique qui existe pour les patients souffrant de maladies d'Alzheimer ou de maladies neurodégénératives qui ont également leur importance. Je vais vous donner un exemple. Hein, même au niveau sociétal, quand vous êtes diagnostiqué maladie d'Alzheimer, vous rentrez dans un circuit et vous avez des aides qui facilitent aussi la prise en charge des patients, etc. Donc un diagnostic, rien que pour ça, est important.
Merci. Est-ce qu'il y a une question? Non, alors je vais remercier le docteur Jean-Charles Lambert pour cet exposé passionnant. Merci beaucoup.